Roturbin, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativet et cet épisode est consacré aux fermetures d'entreprises et aux réorganisations.
Eh bien le changement, c'est maintenant, le changement, j'y suis prêt.
Et les salariés, eux, ne sont pas toujours prêts. Les réorganisations se succèdent dans les entreprises. Mutualisation, externalisation des activités, fermeture d'un service, déménagement, fusion, scission, plan social, ou plutôt PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ou encore PDV, plan de départ volontaire.
L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé.
Les formations de conduite du changement se multiplient, des services internes dédiés aux transformations naissent dans les entreprises et des cabinets de restructuration sont appelés pour conseiller les directions afin de mener à bien et au plus vite ces changements. Nombreux sont les salariés du privé et aussi du public qui évoluent dans une organisation mouvante, où l'avenir des activités mais aussi des emplois est incertain. L'adaptation des salariés à ces différents changements ne va pas de soi, d'autant plus lorsque ces réorganisations trouvent leur cause en dehors du travail et de la bonne réalisation de celui-ci, mais se nichent plutôt du côté de la quête d'une rentabilité toujours plus importante. Pour réfléchir et interroger les réorganisations et les fermetures d'entreprises, nous entendrons Christiane et Martine, toutes deux employées du tertiaire dans une plateforme logistique. Elles nous feront part des différentes réorganisations qu'elles connaissent dans leur entreprise et des inquiétudes qu'elles ont pour leur avenir dans un métier pénible et aux perspectives d'évolution réduites. On entendra François, qui nous fera le récit de la fermeture de son usine dans laquelle il a travaillé pendant 30 ans. Enfin, nous entendrons Anne Bory, enseignante-chercheuse en sociologie à l'Université de Lille. À partir d'une recherche collective sur la fermeture de l'usine Molex, elle nous apportera un éclairage sur les vécus des salariés et les stratégies des entreprises dans une économie globalisée.
Sur toute ma carrière, j'ai eu 4-5 horaires différents. Le matin, je démarre à 6h, j'effectue du picking, ce qu'on appelle préparation de commande.
Je suis aux ateliers, on fait que du plaquettage pour aider les magasins, ou alors on fait du contrôle pour tous les colis qui partent à l'étranger.
Il y a eu notamment un plan de départ volontaire. Parce que les arguments, ça va être de dire que le prêt-à-porter est en crise, on se doit de se réorganiser, etc. Ça, c'est des choses qui sont entendables ou...
Le problème des personnes qui sont en logistique, en majorité, c'est qu'elles n'ont pas de diplôme ou très peu de diplôme. Alors évidemment, quand on entend ça, après avoir travaillé plus de 20 ans, 25 ans et même plus, je dirais qu'il est évident qu'en plus, abîmé physiquement, c'est difficile d'entendre ça pour des personnes qui ont tout donné, qui ont même parfois travaillé, je dirais, souvent un petit peu gratuitement sur certains jours, on va dire, puisque le volontariat, on y croyait tous, enfin je veux dire... Au départ, on a donné tout ce dont on avait dans nos tripes, en fait, on va dire. Et aujourd'hui, c'est au revoir, bye bye, comme si on n'était rien, un numéro. Évidemment, c'est difficile d'entendre ça pour des personnes qui ont donné 30 ans de leur vie pour une même entreprise. Donc, dire que la stratégie n'est pas bonne, je peux comprendre que le patron gagne moins d'argent, donc il veut se séparer de ces personnes. Le problème, c'est que c'est la manière aussi de faire. On change de patron. Donc ça n'a rien à voir, on n'a pas trop demandé au personnel s'il avait envie de changer de patron. On lui dit, tu vas là-bas, point final. Or, je trouve pas ça très, très normal, déjà. Et puis, ma foi, on a quand même du mal à l'accepter, parce que nous, entre guillemets, les personnes de la logistique sont bloquées. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles savent faire après toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment de diplôme? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors bien sûr, dans le PDV, on vous dit vous pouvez faire une formation. Donc c'est quand même là, ils ont été, je dirais, après un PSE, il y a eu un PDV. Donc évidemment, le PDV, ils disent vous pouvez faire des formations. Donc les gens cherchent, pour ceux qui savent, enfin, je veux dire, qui ont envie de se lancer, parce qu'en fait, il y a autant de risques d'un côté comme de l'autre. Donc si on part, il y a quand même des risques, et si on part pas, il y a encore plus de risques, puisque... Va-t-on supporter de faire le travail qu'ils nous demandent, aux cadences qu'ils nous demanderont? Voilà.
Dans mon secteur, je vais dire, c'est entre 200 et 300 pièces heure. Et comment dire, le vendredi, nous avons un point où elle donne la productivité, la moyenne, en fin de compte, qui a été faite.
Et l'atteinte d'objectifs, entraîne une prime, entraîne...
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est... Ça nous permet, en fin de compte, la productivité, ben, quand on l'a fait, on doit s'estimer heureuse de l'avoir faite. Ça nous valorise, nous, intérieurement.
Mais alors, ça fonctionne ou pas ?
Moi, personnellement, non.
Façon, après 32 ans de, bah, c'est ça. De travail,
non.
Je pense qu'on a dépassé le cap. Mais disons qu'on sait se regarder dans une glace, disons. On sait ce qu'on vaut. On travaille, et puis point. Mais je veux dire, la source de motivation, elle n'existe plus. Dans les sites logistiques, à part le moment où si, peut-être... Dans un chiffre d'affaires qui est très important, sans doute, ça doit motiver les gens. Mais nous, chez nous, il n'y a plus de motivation du tout. Au bout de quelques années, forcément, la personne aura des problèmes de santé. C'est clair. Il y a des gestes trop répétitifs. Il y a des charges quand même lourdes, parce qu'entre 15 et 20 kilos, malgré tout, quand c'est tous les jours, de toute manière, il y a un moment donné, forcément...
Puis mentalement aussi. Hein.
Psychologiquement, oui. Psychologiquement, oui. Ce sont des tâches répétitives. Donc on n'apprend rien. Enfin, je veux dire, entre guillemets, on n'apprend rien, on n'évolue pas. Donc c'est un peu comme une machine. On travaille comme des machines, en fait, quelque part. On n'évolue pas du tout. On travaille pour le salaire. Direction, on l'a changé 4 fois en 3 ans.
Oui, 4 fois en 3 ans.
On a toujours... Ça tourne, mais alors...
Votre direction, elle a changé 4 fois.
Oh. Oui, tout à fait. Ça, ça déstabilise.
Justement, ça, comment on se projette dans une entreprise où la direction change souvent comme ça ?
Très déstabilisant pour le salarié.
C'est complètement fou.
Très déstabilisant.
L'un nous dit ça, un an après l'autre nous dit ça. On dit la cible, c'est des jeunes. Après, la cible, c'est des personnes plus mûres. Après, on revient à une cible jeune. Il n'y a rien qui va. C'est complètement... Alors, du coup, comme ils n'osaient pas se débarrasser de nous, puisqu'on ne voulait pas partir, puisque nous, la majorité, je parle, hein, qu'est-ce qu'ils ont passé ? Ils nous ont vendu de l'autre côté. Et c'est là, c'est la grosse bataille, on n'est pas d'accord. Mais en fait, pour faire des économies, ils se sont séparés, donc plein de gens des bureaux haut niveau, parce que ils sentaient que le vent tournait. Donc ils sont partis soit dans le PDV, soit pour faire autre chose. Ils se séparent de la logistique, donc ils se séparent, comme ça, eux, ils ont le moindre frais, et ils font des économies et ils gagnent de l'argent. De toute façon, pour l'instant, le dépôt n'est pas encore fini d'être construit. Donc on verra exactement comment ça se fera là-bas. Donc pour l'instant, on a une idée simplement du terrain, avec ce qui va se passer en gros. Mais on ne peut pas dire tout de suite. Je veux dire, on peut pas. On verra sur le tas. Je veux dire, l'inquiétude est là au niveau de toutes les personnes qui, en logistique, ont atteint un âge, je dirais, mûr. Et puis, ils se posent la question de savoir si, avec cette restructuration, effectivement, ils sauront suivre la cadence d'un nouveau dépôt qui sera, beaucoup plus, peut-être, cadencé.
Ça, c'est une crainte que vous avez ?
Oui. Les nouveaux outils,
il faut les maîtriser quand on ne connaît pas.
Voilà.
Moi, je trouve que ça, franchement, c'est quelque chose au niveau du monde du travail qu'il faut regarder. Parce qu'il y a des personnes, elles sont peut-être employées, agents de maîtrise, peu importe le statut. Mais elles mériteraient qu'à un moment donné, les employeurs prennent la responsabilité de les former, de continuer à les former, même dans leur métier. Parce que les nouvelles technologies, on ne les connaît pas. C'est compliqué de faire que du jour au lendemain, on te dit, tu es peut-être obsolète, comme on dit. Mais c'est pas nous qui sommes obsolètes, tu nous as pas formés.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
Alors l'annonce a lieu le 23 octobre 2008. Grande surprise du 23 octobre 2008, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sentait pas bien, mais quand on nous annonce le jour au lendemain la fermeture définitive, on était quand même... surpris, je me souviens que j'avais dit à un journaliste que c'était comme un uppercut qu'on recevait en pleine figure, cette annonce.
Parce qu'avant, un an avant, il y avait des choses qui, des signes un peu annonciateurs
Alors c'est surtout durant l'année 2008. Début 2008, on nous annonce qu'un stock va être fait, un stock de pièces, en plus de la production normale, et qui va être stocké en Hollande chez un revendeur. Grande surprise, parce que dans l'industrie automobile, les stocks, ça n'existe pas. Et le deuxième point, c'est qu'ils avaient engagé un cabinet qui s'appelle Muta pour apprendre aux gens à se réorienter en cas de besoin, faire un point sur les compétences de chacun, etc. C'était surprenant parce que ben, si on continuait à travailler, on n'avait pas besoin de s'évaluer pour un nouvel emploi. C'était très surprenant. On ne s'y attendait pas à une fermeture définitive. On savait qu'il y a des choses qui se préparaient. On avait été félicités pour des très très bons résultats au niveau de Villemur. Il y avait eu une récompense, c'est tellement petit que j'en rigole, une récompense donnée à chaque salarié qui était une bouteille de vin, au mois de juillet. Et moi, j'étais reparti sans la bouteille de vin. Je trouvais ça tellement ridicule, récompenser salarié avec une bouteille de vin. Mais bon, tous les clignotants étaient au vert, sauf qu'on sentait qu'il y avait des choses un petit peu anormales. En particulier, il y avait des jours où la majorité des chefs de service n'étaient pas présents sur le site, sauf trois chefs de service qui étaient, eux, syndiqués CGC. Donc c'était assez surprenant, on ne comprenait pas trop. Mais quant à une fermeture définitive, quand même, on parlait de réorganisation, par exemple, mais fermeture définitive, on ne s'y attendait pas. C'est plus tard, lorsque les choses sont passées, qu'on a eu accès à certains documents, certaines informations, qu'on a réalisé ce qui se passait vraiment, quoi. Ce qui s'était passé, puisque c'était bien trop tard.
Donc cette entreprise, elle a aussi une histoire, elle a eu énormément de changements de direction. C'est une entreprise qui a été rachetée à plusieurs reprises. Aussi, en tant que salarié, comment on vit ces différents rachats, ces différents changements de nom ?
Lorsqu'on reste employé, que l'emploi est toujours là, qu'il y a toujours quelques investissements, quelques embauches de personnel, il y a des changements de direction, mais bon, on est dans son boulot, on s'habitue, on ne se pose pas mille questions. Le rachat par Molex nous a inquiétés, parce que c'est une entreprise qu'on connaissait déjà. On savait que c'était une entreprise qui ne faisait absolument pas de cadeaux, qui avait déjà fermé des sites en France, d'ailleurs. Les syndicats l'avaient fait savoir aux instances politiques locales et même nationales.
Et donc, du coup, suite à l'annonce, en octobre, collectivement, là, il se passe quelque chose.
Le jour de l'annonce, on a été réunis. En même temps que le comité d'entreprise, les chefs de service réunissaient leur personnel pour leur expliquer ce qui se passait. Et je suis parti de suite, j'ai pas attendu les explications du monsieur qui nous expliquait ça. Parce que il était absolument pas convaincant, le gars qui nous expliquait ça. Il nous annonçait la fermeture et il voulait nous faire croire que on n'était pas si malheureux que ça et qu'il y aurait toujours des solutions, etc. etc. Et ensuite, la direction a réuni tout le personnel dans l'après-midi en leur donnant un document émanant des patrons de Molex aux États-Unis pour expliquer la fermeture et ce qu'ils comptaient faire pour finaliser cette fermeture. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, cette réunion. Les gens ont réagi très très vite en disant « on ne se laissera pas faire, on ne laissera pas l'usine fermer, on va utiliser tous les moyens pour que ça ne ferme pas ». Je me souviens avoir dit que c'était le sentiment de quelqu'un à qui on vole quelque chose qui prédominait à ce moment-là. Je pense que les gens s'étaient approprié leur usine. Certains y travaillaient depuis très longtemps. Hein. La moyenne d'âge était de 46 ans au moment de la fermeture.
Donc c'est votre cas aussi, vous avez commencé...
Oui, moi j'ai commencé à travailler dans l'usine de Villemur, bon, pas dans ce secteur-là, mais en 1975. En plus, j'étais le fils d'un ancien employé de l'usine qui lui était rentré dans l'entreprise en 1941. Donc,
à la création.
À la création. Il y avait un sentiment de se faire voler quelque chose, quoi. Et en plus, bon, c'est un métier très spécialisé. On nous dit que maintenant, on ne restera pas dans le même métier toute notre vie, qu'il faudra se recycler, etc. Quand on sort d'HEC, je peux comprendre. Quand on a un CAP ou un BEP, ça devient un peu plus complexe, parce que tout change. Bon, l'industrie disparaît petit à petit, mais pas non plus nous faire croire ce qu'on n'est pas obligé de croire.
Et du coup, commence un conflit social qui dure un an jusqu'à la fermeture effective, avec notamment 2 mois de grève.
La grande majorité des salariés voulaient s'opposer à la fermeture. Les organisations syndicales, qui avaient un peu plus d'informations que nous, puisqu'elles participaient aux réunions des comités d'entreprise, essayer de nous expliquer comment on allait se défendre dans un cadre légal. C'est-à-dire, on n'allait pas mettre le feu à l'usine, mais on allait utiliser tous les moyens à notre disposition, à travers le droit du travail, pour empêcher Molex de fermer, sachant que les éléments apportés par Molex pour justifier la fermeture étaient très flous. On se sentait fort, on va dire, contre l'entreprise, sans trop rêver néanmoins, au point qu'à vers le mois d'avril, je crois que c'était, le tribunal de Toulouse a demandé à notre employeur Molex de revoir totalement sa copie et de donner tous les éléments factuels qui permettaient de justifier la fermeture. Alors, c'était extrêmement difficile pour Molex, évidemment, puisque le site de Villemur faisait des bénéfices, avait des projets. Il n'arrivait absolument pas à justifier les raisons économiques de la fermeture, puisqu'il voulait fermer pour raisons économiques. Donc, les gens étaient unis derrière ça. On se disait qu'il y avait peut-être moyen d'éviter cette fermeture. Mais bon, c'était sans connaître tout à fait l'adversaire, je vais dire.
J'aime bien travailler. Mais ça dépend des jours.
Anne Bory, enseignante chercheuse à l'Université de Lille, elle a participé à l'écriture de l'ouvrage « Quand ils ont fermé l'usine, lutter contre la délocalisation dans une économie globalisée », signé sous le nom du collectif du 9 août aux éditions Agone en 2017.
Les opérations de fusion, acquisition, restructuration dans l'industrie sont aussi vieilles que l'industrie. Mais le fait d'être face à des restructurations, notamment décidées depuis des sièges sociaux souvent lointains, dont les décisions sont prises au mieux, au plus proche à Paris, mais parfois dans des capitales plus lointaines, ça accompagne la mondialisation. Et c'est des phénomènes qui s'accélèrent à partir des années 90, 2000 et encore jusqu'à présent. Ce qui fait la valeur d'une usine évolue avec le temps et la valeur de l'action peut ne pas être directement connectée à la valeur d'une usine en elle-même, quoi. Donc on peut être face à des restructurations qui sont là pour rendre une entreprise plus rentable et pas uniquement parce qu'elle serait intrinsèquement ou de façon générale en difficulté. L'idée que l'activité industrielle, elle change, elle n'est pas du tout récente. Cédric Lomba, par exemple, qui a étudié Arcelor à Liège, lui parle de restructuration permanente. Voilà, la sidérurgie, c'est on réorganise le périmètre de l'usine, on externalise des activités, on a recours régulièrement à du chômage partiel, etc. Enfin, si je prends le cas de Molex, par exemple, la fermeture de l'usine, elle intervient parce qu'il y a une réorganisation de où est-ce qu'on produit, parce qu'il y a une réorientation vers l'Asie. Et donc, on se rapproche des consommateurs. On a moins d'intérêt à produire en Europe. Il y a une question de coût du travail qui est frappante, mais qui rentre dans des logiques commerciales de pour quel marché est-ce qu'on produit. Et du coup, on rapproche les centres de production des marchés pour lesquels on produit, Asie, États-Unis. Ça n'a pas grand-chose à voir avec, effectivement, la rentabilité d'une usine, mais ça a à voir avec des calculs commerciaux, managériaux, qui sont faits à l'échelle d'un groupe qui est un groupe international.
Donc là, typiquement, sur l'usine Molex, la décision émane pas forcément de dirigeants français, mais émane de dirigeants outre-Atlantique ou...
C'est une décision qui est prise à Chicago.
Alors que l'usine, historiquement, est française.
L'usine, c'est une usine française qui a appartenu à divers groupes européens, qui a appartenu à la SNECMA, donc à un groupe public, qui entre 1943 et 2004 connaît, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais 5 ou 6 propriétaires différents, avec un allongement des chaînes de décision au fur et à mesure des rachats. C'est-à-dire que d'abord, on a des dirigeants qui sont aussi les propriétaires du capital, et puis plus ça va aller, plus il va y avoir disjonction entre dirigeants salariés qui détient le capital, et une disjonction qui est à la fois, c'est plus les mêmes personnes, le capital commence à être un capital financiarisé, donc c'est des actionnaires, ça peut être un État actionnaire, mais sinon c'est des actionnaires, personnes privées ou entreprises, et avec aussi une distance géographique plus forte entre Villemur-sur-Tarn, Paris, et puis Villemur-sur-Tarn, Chicago.
Et cette distance géographique facilite aussi des prises de décision quand on ne connaît pas les personnes qui potentiellement vont perdre leur emploi, et que la personne qui prend la décision ne prend pas forcément la mesure de l'impact de ces décisions-là dans les vies de salariés, dans un environnement local, un bassin d'emploi. Donc, est-ce que ça aussi, c'est cette complexité en fait, des entreprises juridiquement, etc., font que les décisions s'éloignent des endroits opérationnels, en fait.
L'ordre de considération, c'est plutôt que ces 300 personnes, ça n'est pas rien. Mais si c'est 2000 emplois en Asie, et donc là, avec des propos très clairs hein, en entretien sur de quel droit est-ce que moi, dirigeant, je dirais que la vie d'un ouvrier français vaut plus que la vie d'un ouvrier chinois. Et du coup, avec un espèce de renversement de la focale, qu'on peut lire comme de la pure mauvaise foi ou pas, et c'est pas vraiment la question, en fait, ou du cynisme, mais l'échelle de considération n'est pas la même. Et qu'effectivement, on a d'autant plus facilement une échelle de considération de ce type-là que les relations avec les gens qui travaillent dans les usines sont complètement dépersonnalisées et qu'on ne les croise pas quand on va emmener ses enfants à l'école le matin.
La complexification des entités juridiques qui permet tout ça, en fait.
Ben, plus on allonge l'échelle de décision, plus on dilue les responsabilités.
Et plus le droit national va avoir du mal à s'exercer.
À des limites, puisque une partie des acteurs échappe au droit national.
On va aller un petit peu du côté des salariés. Comment les salariés en fait vivent ces changements qui finalement n'ont pas forcément de lien avec la bonne réalisation de leur travail ?
Les salariés, ils peuvent finir par comprendre les raisons de leur licenciement. Par contre, à aucun moment, ils peuvent les accepter. Le sentiment principal, c'est un sentiment d'injustice très fort. Dans la plupart des cas, les gens comprennent que ils n'auraient rien pu faire pour empêcher ça. On parle d'une usine où on annonce la fermeture en octobre. En juillet qui a précédé, le groupe américain décerne une espèce de récompense, de award, à cette usine pour la qualité de sa production. Alors pas pour sa productivité, et ça va beaucoup être la défense de l'entreprise en disant « mais on n'a pas dit qu'ils étaient rentables, on a dit qu'ils travaillaient bien ». Et c'est deux choses différentes. Imaginez-vous pour des salariés ce que ça veut dire en termes d'hypocrisie ou de mensonges. Quand des décisions comme ça sont prises, il y a beaucoup de colère, il y a un sentiment d'injustice très fort. Il peut y avoir des sentiments de trahison, notamment plus les salariés travaillent près des dirigeants. Mettez-vous à la place des secrétaires, par exemple, qui ont signé un pacte de confidentialité plusieurs mois, voire une année auparavant, du fait qu'ils n'allaient parler de rien et qui ont, pendant des mois et des mois, préparé la fermeture sans le dire à leurs plus proches collègues. Enfin, c'est une usine avec des liens interfamiliaux très forts. C'était une usine où la moyenne d'âge était importante, l'ancienneté était très importante. Beaucoup de gens étaient rentrés sans diplôme ou avec des petites qualifications.
Ouvriers qualifiés.
Voilà. Alors, du coup, plutôt ouvriers qui étaient devenus ouvriers qualifiés.
En interne,
mais avec une absence d'équivalence de reconnaissance des qualifications en externe et donc un reclassement qui est dramatique. Enfin, c'est qu'en gros, les plus qualifiés, les plus jeunes, les plus mobiles ont retrouvé du travail. Et celles et ceux qui étaient les plus proches de l'âge de la retraite, qui étaient très nombreux, en ont moins souvent retrouvé. Et quand ils en ont retrouvé, en ont beaucoup moins souvent retrouvé en CDI à temps plein à des conditions salariales acceptables, mais beaucoup sur de l'intérim, du CDD, du temps partiel.
Et je voulais revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la décision d'une fermeture d'usine, d'un PSE, c'est bien souvent anticipé, notamment d'un point de vue économique. Du coup, le moment où la décision est prise, ce qu'on peut observer, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une décision prise, il y a des changements qui s'opèrent et où on finit par créer les conditions de la décision prise en amont. L'activité qui part, qui permet de dire on se doit de faire un PSE parce qu'en fait, là, on n'a plus d'activité, les emplois sont en péril. Mais en fait, quand on regarde un peu, on se rend compte que ce déplacement d'activité a été mis en place pour venir valider la décision qui a été prise en amont. Est-ce que ça, vous l'avez un peu observé
Clairement. Il y a une succession de décisions qui facilite la décision finale. L'usine a produit pendant plusieurs semaines des produits qui étaient destinés en fait à constituer un stock en Hollande en cas de grève au moment de l'annonce de la fermeture. Sauf que les salariés ne le savaient pas. Mais ils trouvaient ça quand même bizarre. C'est une usine où, sur les dernières années, il y a plusieurs salariés qui sont allés au Portugal, en République tchèque, former des gens pour faire leur boulot. Alors, c'était pas dit comme ça et c'était pas vécu forcément comme ça, mais il y avait quand même une forme de doute quand on va apprendre à d'autres à faire ce qu'on fait soi et qu'on sait que ces autres sont payés moins.
Donc ça veut aussi dire que ces décisions, elles prennent pas forcément en compte l'impact organisationnel, elles prennent pas forcément en compte l'impact sur les conditions de travail, sur la santé des salariés.
Non, et je pense que la tendance actuelle Et c'est pas tellement qu'elles prennent pas toujours en compte, c'est qu'en fait, c'est rare qu'elles le fassent. Enfin, ça rentre dans ce mouvement général qui est censé fluidifier la vie économique, mais pas forcément celle des salariés.
Haut-Urbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.